Chapitre 6. Et l'instituteur causait de ces événements avec le président de la chambre de charité. Ce n'était plus le même instituteur, le beau blond. Quand on a un peu de souffle, un peu d'envolée, on ne reste pas longtemps sur le premier échelon, on l'abandonne à d'autres. C'était un petit brun depuis 2 ans, moins enthousiaste, plus énergique et qui menait sa classe tambour battant. Donat lui faisait honneur, il s'intéressait à cet enfant dont la réserve, l'intelligence, la volonté dure et l'égoïsme l'intriguaient. Il avait interrogé un jour sur ses projets d'avenir et Donat, lentement, un peu à la façon d'une huître prudente, s'était ouvert. « Je le tiens pour un sujet remarquable, » dit l'instituteur. Le président se frottait le menton de la main droite, tandis que la gauche, une belle main fine de grand horloger, s'allongeait sur le bras du fauteuil. Alentour, il y avait de vieilles estampes aux parois, des diplômes, des bulletins de l'observatoire encadrés. Sur une étagère, dans sa cassette de cristal, un grand chronomètre de marine, ancien, historique. Les titres de noblesse de la maison. Le président, un des premiers chronométriciens du monde, un savant qui n'avait pas voulu s'enrichir et qui, satisfait d'une fortune modeste, consacrait à la chose publique, incorporait dans de nombreux comités, les loisirs que lui laissaient la physique et l'éducation de ses enfants, le président donc de la Chambre de Charité, qui, dans ce temps-là, représentait l'assistance publique pour les communiés, M. Daniel Létienne était fort songeur. « En somme, dit-il, l'événement prouve que nous placions mal notre confiance et nos orphelins. Personnellement, je ne saurais dire que Martin Coquart me fût sympathique. Mais je le tenais pour un homme rangé, un travailleur. Son trafic de contrebande était fort secret. » Le procureur général, avec qui je me suis entretenu de l'affaire, pense que rien ne sera plus difficile à prouver que sa participation à ces fraudes. Quant à l'incendie du Fourchaud, bien que Jules Brunel assure n'avoir agi qu'à l'instigation de son patron, celui-ci nie et s'agite comme un beau diable. Vous verrez qu'il s'en tirera avec les 4 pieds blancs et que Brunel seul écopera. Dès qu'il s'agit de primes d'assurance et que l'assureur est l'État, c'est-à-dire chacun, le jury ne se laisse pas attendrir, d'autant plus qu'il s'agit d'un récidiviste. Pauvre gamin, nous avons bien mal veillé sur lui. J'ignorais même que le père eut depuis 4 ans son domicile à la Brigandière. Je crois, reprit l'instituteur, que l'influence du père a été nulle, ou bien elle s'est peut-être fait sentir dans l'autre sens. Donat est ambitieux d'une belle et honnête carrière. « sans doute, fit M. Létienne, toujours le menton dans sa main. Mais il n'est guère dans nos habitudes, ni dans nos moyens, d'entretenir jusqu'à 17 ans à l'école un de nos jeunes indigents. Celui-ci vous ferait honneur plus tard. C'est possible, oui, et l'on pourrait avancer aussi que nous lui devons une réparation. Notre incurie a été coupable dans une certaine mesure. » Il me semble, hasarda l'instituteur, qu'il y a eu quelque illogisme à retirer, immédiatement après l'arrestation, l'enfant en bas âge placé chez Coquart, et à y laisser un garçon déjà grand, capable de voir, de comprendre et de souffrir. Vous avez parfaitement raison, mais une mère nourricière était facile à trouver pour le bébé, tandis que pour Donat Brunel, il faut une vraie situation, un apprentissage, quelque chose de sérieux enfin. « Je vous prie bien instamment, dit l'instituteur, tirant sa dernière cartouche, de le mettre en pension chez de braves gens à la ville, de façon à ce qu'il puisse suivre l'école secondaire et passer ses examens d'État à 17 ans. Est-il en mesure, voyons, sera-t-il admis? Il faut un certain niveau d'instruction, fit le président qui s'agitait un peu, car il prévoyait une chaude bataille. » Il sait plus d'orthographe, de géographie, d'histoire, de mathématiques que vos élèves de la première primaire sortant avec une mention, dit le petit brun en s'échauffant. Et il a des notions sur toutes sortes de sujets. C'est un questionneur enragé. Il sait par cœur chaque volume de notre petite collection scolaire. L'autre jour, je l'ai poussé un peu. Il nous a fait une vraie dissertation sur le système planétaire. Oui, il aura lu Flammarion, dit M. Lestienne, qui n'aimait pas beaucoup les vulgarisateurs. Soyez certain que nous tiendrons compte de votre recommandation. Et quant à moi, je vous suis obligé de vos soins pour cet enfant. L'école aura réparé dans quelque mesure notre négligence. Cet homme de bien, ce savant, dont toute la vie brillait claire et pure, avait une très haute idée de la valeur de chaque existence. Et la seule pensée de laisser galvauder et flétrir les possibilités magnifiques contenues dans une volonté d'enfant, le tourmentait, le rongeait. Ce fut dans ce sentiment qu'il parla lorsque le comité fut réuni, le lendemain, pour délibérer d'urgence sur le cas de Donat Brunel. « Nous trouverions, je pense, dit-il, une honnête famille qui, pour une pension de 30 à 35 francs par mois et pour une durée de 4 ans, se chargerait du jeune garçon, l'entourerait de l'influence morale dont, par notre faute, messieurs, par notre mauvais choix, il a été privé jusqu'ici. J'ajouterai, tout en priant notre secrétaire de ne point porter cela au procès-verbal, que la question de l'habillement ne devra point vous préoccuper. J'en ferai mon affaire. » La discussion fut longue, obstinée, mesquine par moments. Le caissier défendait ses finances avec acharnement et le secrétaire communal, qui avait été spécialement convoqué, révéla que Donat Brunel, 7 années auparavant, s'était rendu coupable d'un acte d'indiscipline, de violence et d'indélicatesse, arrachant aux mains innocentes d'une toute petite fille un mouton sur lequel il n'avait que des droits douteux et dont la mère... « Pardon, messieurs, je vous prie de me comprendre. La mère de cette petite fille avait été parfaitement bonne envers l'orphelin et elle s'est plainte à moi par la suite de son ingratitude. » Quelques messieurs hochèrent la tête, mais l'incident était décidément trop ancien pour qu'on pût songer à enquêter. D'autre part, le témoignage favorable de l'instituteur pesait d'un certain poids. M. Lestienne parla de nouveau, insista. Tout à coup, le caissier s'avisa qu'on pourrait mettre sur la conscience de l'enfant le devoir de rembourser plus tard les sommes dépensées pour son éducation. On chercha un moyen de rendre cet engagement valable et légal. On ne le trouva pas puisqu'un mineur était en cause. Mais une espérance rasséréna plusieurs fronts et, quand on vota, la proposition de M. Lestienne obtint 3 voix de majorité. Alors, naturellement, tous les pouvoirs et toutes les démarches, les responsabilités et les ennuis lui furent délégués. Pendant 15 jours, Donat lui remplit, lui obscurcit son vaste horizon, éclipsa la physique, supprima la sieste de l'après-midi, bourra de détails de linge et de chaussettes, de minutie de contrats, une grande intelligence mathématique. Madame Lestienne, il est vrai, s'occupa des réalisations du trousseau. Elle avait 2 fils qui grandissaient. Dans leur défroque mise à sa mesure, Donat fut habillé comme un prince. Le jour 20, où il passa pour la première fois le seuil d'une petite maison jaune à volets verts, précédé d'un jardin fleuri de pivoines, d'iris et de lilas. On ouvrait une petite porte verte à barreaux, on longeait la maison par une étroite allée sablée. À l'autre bout, il y avait le bassin de pierre d'une fontaine. Et puis, on entrait dans un passage d'allée. À droite, on voyait une porte avec un écriteau. Mesdemoiselles lisaient, modistes. On montait un escalier dont chaque marche était bordée d'une bande de fer très dangereuse, car le bois étant usé, la bande et les clous saillaient. L'on s'y arrachait ses talons quand on descendait étourdiment, ainsi que Donat eut plus d'une occasion de l'expérimenter par la suite. Au sommet de l'escalier, une fenêtre était garnie de rideaux blancs, puis un tapis de coco vous conduisait à une porte où vous lisiez un autre écriteau, « Émer Jean-Richard, Régleur ». Et alors, c'était le paradis qui s'ouvrait.